Les zones d'ombre de l'histoire.
Berlin, c'est les testicules de l'Ouest. Quand je veux faire hurler l'Ouest, je presse Berlin. C'est Nikita Khrouchtchev qui prononça cette phrase en 1963. Le dirigeant soviétique ne s'embarrassait pas de précautions langagières. Et près de quatre décennies plus tard, le jeune premier ministre de la Fédération de Russie aura tout autant recours à un langage aussi cru qu'explicite. « Nous buterons les terroristes jusque dans les chiottes ». La phrase est entrée dans l'histoire. Elle fut prononcée par Vladimir Poutine lors du déclenchement de la Seconde Guerre de Tchétchénie. À cette époque, celui qui n'est encore que le premier ministre de Boris Eltsine a fait son apparition sur la scène publique depuis quelques mois. Dans notre précédente émission, nous avons suivi l'itinéraire complexe qui lui a permis d'accéder au pouvoir, dans un contexte de bouleversement considérable de la Russie. Pour de nombreux observateurs, Vladimir Poutine semblait plus présentable qu'un Boris Eltsine à la santé fragile, mais surtout corrompu. Pourtant, l'arrivée du nouveau Premier ministre s'accompagne du déclenchement d'une guerre qui a soi-disant pour but d'éradiquer le terrorisme et de rétablir l'ordre en Tchétchénie. Mais rapidement, les faits qui entourent cette offensive militaire apparaissent douteux. Il est aujourd'hui possible d'affirmer que certains faits inaugurant la carrière politique de Vladimir Poutine ont relevé d'une manipulation. Les Occidentaux sont restés particulièrement modérés dans cette opposition à cette guerre, ne voulant pas fragiliser davantage Boris Eltsine, dont la posture politique était plus que précaire. Le Monde a aussi préféré ne pas s'attarder sur les rumeurs d'implication du FSB dans la vague d'attentats de septembre 1999. Si au fil des années, Vladimir Poutine va inexorablement faire évoluer son pouvoir vers une dictature et renouer notamment avec les bonnes vieilles méthodes du KGB, emprisonnement et assassinat ciblé, la communauté internationale va mettre longtemps à réagir et tentera jusqu'au bout d'amadouer le dirigeant russe, en lui faisant notamment ce magnifique cadeau des Jeux Olympiques d'hiver en 2014. Mais la diplomatie du sport ne fut pas plus efficace que les autres tentatives. Si l'on ne peut pas parler d'une nouvelle guerre froide, il faut bien reconnaître que les présidences Gorbatchev et Eltsine semblent avoir été une parenthèse et que Vladimir Poutine se situe bien davantage du côté de Staline ou Andropov, à ceci près que les dirigeants soviétiques dépendaient du Parti communiste. Aucun d'eux n'a connu la longévité de Poutine qui a déjà régné sur la Russie plus longtemps que Staline et qui vient d'être réélu pour un mandat de 6 ans.
Like a regular fella, poop putting his hat on, hat size number 9. You saying Putin's getting big headed? Putin says just fine. He can drive his giant tractor across the Trans-Siberian Plain. He can power a nuclear reactor with the left side of his brain. And when he take his shirt off, he drive a lady's crazy. When he take his shirt off, make me wanna be a lady. It's the Putin girls.
Putin, if you put it, when you put it, where you put it. Putin, if you put it, when you put it next to me. Putin, if you put it, when you put it, where you put it. Putin, if you put it, when you put it next to me.
Putin hates the Putin girls, 'cause he hates vulgarity. He loves his mother country, and he loves his family. He and his ex-wife Ludmilla ride along the shore of the beautiful new Russian Black Sea. Let's listen in. A great man is speaking. We fought a war for this. I'm almost ashamed. The Mediterranean. Now there's a resort worth fighting for. If only the Greeks or the Turks would start to sniff around. Oh, I'd bring the hammer down. so quick their woolly heads would spin. Woolly head, woolly head, woolly head. Oh, wait a minute, even better. What if the curds got in the way? Hey, curds and whey, curds and whey. Sometimes a people is greater than their leader. Germany, Kentucky, France. Sometimes a leader towers over his country. One shot at glory, they don't get a second chance. Drag these peasants, kicking and screaming, into the 21st century. I thought we'd make it, must have been dreaming. Chicken farmers and fire cooks gon' be the death of me. I can't do it.
Sure you can.
I can't do it.
Yeah, you can.
What makes you say that, girl? That's a good one, ladies. It's our turn to sit in the comfy chair.
And you're the man gonna get us there.
I don't know. Lenin couldn't do it. I don't know. Stalin couldn't do it. Now they couldn't do it. Why do you think I can?
You're gonna lead our people to the promised land.
Oh, you're right. It's goddamn on the boots on me.
Les relations entre la Russie et la Tchétchénie ont toujours été compliquées. Et le pouvoir russe a la plupart du temps considéré ce pays montagneux du Caucase comme partie intégrante de son territoire. En 1917, les Tchétchènes se rangent du côté des bolcheviks. Mais cela n'empêchera pas Staline de se retourner contre eux et d'annexer le pays. Durant la Seconde Guerre mondiale et l'offensive allemande sur le front de l'Est, la Tchétchénie est occupée plusieurs mois par les forces du Troisième Reich. La population a majoritairement résisté. Pourtant, Staline va accuser les Tchétchènes de collaboration et va les faire déporter en masse, tout en abolissant le statut autonome du pays. La déstalinisation entamée par Khrouchtchev aboutit au retour des Tchétchènes dans leur pays en 1957. Néanmoins, le pays reste administré par la Russie. En 1991, au moment de l'éclatement de l'URSS, la Tchétchénie se dirige vers l'indépendance, sous la houlette du général Doudaïev, avec l'apparente bénédiction de Boris Eltsine. Mais tant du côté du KGB que de l'armée, on n'est pas disposé à voir ce pays se séparer ainsi de la Russie. En effet, l'oléoduc qui permet d'acheminer le pétrole russe vers la mer Noire traverse une grande partie du territoire tchétchène. La proclamation de l'indépendance par le général Doudaïev reste sans effet sur les pays voisins, qui ne suivent pas le mouvement et s'intègrent progressivement dans la Fédération de Russie. À cette époque déjà, la Tchétchénie est difficile à gouverner. La mafia y est très active. Dès cette époque, on soupçonne que l'armée russe œuvre pour déstabiliser encore davantage le pays. En effet, le blocus imposé par Moscou ne fait qu'accroître une économie parallèle noyautée par le crime organisé. Conjointement, en Russie, un racisme anti-tchétchène intentionnellement entretenu commence à se développer. En décembre 1994, la guerre prévisible éclate. Ce premier conflit a sans doute été largement orchestré pour permettre à Boris Eltsine de se refaire une santé politique, car il était déjà en mauvaise posture face à un parti communiste qui se reconstruisait. C'est sans doute cette perspective qui fit que la condamnation de cette guerre fut modérée dans le clan occidental. En effet, personne ne voulut affaiblir Eltsine, considéré comme un rempart contre un retour éventuel du communisme. L'argument eut un poids très particulier aux États-Unis notamment. En 1996, l'armée russe est littéralement chassée de Grozny par des combattants tchétchènes bien moins équipés, mais très déterminés. Cela va déboucher sur la signature d'un cessez-le-feu entre Aslan Masradov, le nouvel homme fort du pays, et le général Lebed, fraîchement nommé secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Mais les Tchétchènes ne se font pas d'illusions. et savent que d'une part, les militaires russes n'ont pas digéré l'humiliation et voudront prendre leur revanche, et que d'autre part, l'histoire des relations entre les deux pays fait que la petite République caucasienne a tout à craindre de son géant voisin. En 1997, Aslan Maskhadov gagne les élections, mais le pays est toujours aussi ingouvernable. L'État n'a pratiquement plus d'autorité et la mafia s'est faite une spécialisation des prises d'otages tous azimuts. Bien des années plus tard, des témoignages crédibles attesteront que certains éléments de l'armée russe et des services de renseignement se rendirent complices de ce trafic très lucratif, en fournissant des otages, parfois même prélevés sur le contingent des appelés. Le gouvernement d'Aslan Maskhadov ne parvient pas à redresser l'économie du pays. L'une des conséquences est que les habitants piratent l'oléoduc et que le marché noir est colossal. S'agissant de la question religieuse, traditionnellement, la société tchétchène pratiquait un islam très modéré et tolérant. Mais sous l'influence des troubles politiques, des combattants se réclamant du djihad, souvent financés par l'Arabie saoudite, vont installer une véritable guérilla. Pour tenter de juguler ces troubles, Aslan Maskhadov essaie d'intégrer le chef de guerre Chamil Basayev dans son gouvernement. Mais rien n'y fait. Maskhadov échappera de justesse à un attentat perpétré par des hommes de Basayev. Le président tchétchène sollicite l'aide de Moscou pour lutter contre ces terroristes et pour l'aider à rétablir un semblant d'État. Mais au Kremlin, on fait la sourde oreille. La posture d'Aslan Maskhadov est alors intenable. Dans son pays, il est accusé de rapprochement avec la Russie. Et Moscou a entamé une campagne savamment orchestrée consistant à faire de la Tchétchénie le foyer d'une montée de l'islamisme dans le Caucase. Tous les éléments sont en place pour qu'un second conflit éclate. Il ne reste plus à Moscou qu'à allumer la mèche. Nous sommes en 1999, une année d'échéance électorale.
Звезды в небе, чей-то вздох, звезды в тысячи карат, мажут слово на листок, ведь листовки не горят. Солнце закатилось вниз, солнце смотрит мне в глаза, вот моя рука держись. Что еще тебе сказать? Даже начнется ночь, когда же начнется ночь, когда же начнется ночь, когда же начнется ночь. Миг, секунда, час, дни уходят навсегда. Это сорвана печать, загорятся города. Кровь пылает горизонт, это развели мосты. Это то, что нас убьет, это я и это ты. Начнется ночь, когда же начнется ночь, когда же начнется ночь,
zone d'ombre de l'histoire. sur Radio Campus Paris.
Durant l'année 1999, la popularité de Boris Eltsine est en chute libre. La corruption, la mainmise des oligarques sur les grandes entreprises et le sentiment que la Russie a perdu tout son prestige et sa puissance, tout cela fait que les citoyens sont désabusés. Les désaccords entre Boris Eltsine et son premier ministre, Yevgeny Primakov, aboutissent au limogeage de ce dernier, qui devient grand favori pour les élections législatives prévues en décembre. Il faut noter que Primakov était pour la négociation avec la Tchétchénie, une position pas franchement répandue dans l'appareil politique russe à cette époque. Il va alors se passer une série d'événements étranges. Le 7 août, les troupes de Chamil Bassaïev franchissent sans difficulté la frontière qui sépare la Tchétchénie du Daghestan. Cette petite république du Caucase, à majorité musulmane, fait partie de la communauté des États indépendants liés à la Fédération de Russie. Curieusement, les troupes russes n'ont opposé aucune résistance à l'incursion des combattants de Bassaïev. Le chef de guerre tchétchène affirme que ces hommes sont venus en aide aux musulmans de cette région opprimée par la Russie et que le but est d'établir les bases d'un État islamique dans le Caucase. Ce qui se passe ensuite est confus. Apparemment, les troupes de Bassaïev rebroussent chemin et repassent la frontière dans l'autre sens sans que les forces russes ne réagissent. Mais ils auraient fait une seconde incursion au Daghestan et cette fois, les militaires russes interviennent. Entre-temps, un nouveau Premier ministre est arrivé au Kremlin, Vladimir Poutine. Puis, entre le 31 août et le 16 septembre, 4 attentats en Russie et un au Daghestan feront au total 294 morts et plus de 1000 blessés. Immédiatement, Moscou attribue ces attentats aux séparatistes tchétchènes. Et Vladimir Poutine annonce que les forces russes vont intervenir dans la petite république du Caucase. « Nous buterons les terroristes jusque dans les chiottes ». De fait, le 1er octobre, l'offensive russe démarre. Mais plusieurs zones d'ombre entourent les faits qui ont motivé l'intervention russe. Tout d'abord, certains observateurs ont noté que les combattants affiliés à Chamil Bassaïev étaient équipés d'armes russes très modernes. Il faut aussi mentionner que Boris Berezovsky, qui était un soutien de Boris Eltsine, connaissait très bien Chamil Bassaïev. L'oligarque avait par le passé plusieurs fois rencontré le chef de guerre pour des raisons politiques et économiques. Chamil Bassaïev avait même très discrètement rendu visite quelques années plus tôt à Boris Berezovsky dans sa luxueuse propriété sur la Côte d'Azur. L'étrange passivité de l'armée russe lorsque les hommes de Bassaïev ont franchi une première fois la frontière du Daghestan est étonnante. Plusieurs témoignages sérieux abondent dans le sens de l'hypothèse selon laquelle Bassaïev était en service commandé et que l'incursion visait moins la défense des musulmans du Daghestan qu'une manœuvre politique dont Berezovsky était l'un des éléments. Dans son livre « Poutine, l'itinéraire secret », Vladimir Fedorovsky affirme que le but poursuivi par le faiseur de roi Berezovsky était de voir le général Lebed nommé Premier ministre. Mais le sulfureux homme d'affaires aurait été rattrapé par un second complot dont l'objet était de voir Vladimir Poutine occuper ce poste. Si après être resté passive, l'armée russe est finalement intervenue contre les troupes de Bassaïev, c'est qu'elle poussait son propre pion, le directeur des services de renseignement. Le FSB, autant que les militaires, souhaitaient reprendre la main, et Poutine était leur homme. De fait, il est nommé Premier ministre et après la démission surprise de Boris Eltsine le 31 décembre 1999, c'est encore lui qui sera immédiatement nommé à la présidence en attendant les élections du printemps 2000. Puis, Boris Berezovsky ne va pas tarder à tomber en disgrâce. Le milliardaire va notamment s'opposer à Poutine sur la question tchétchène et l'oligarque va bientôt faire l'objet d'une enquête financière déclenchée par le Kremlin et qui toucha notamment aux conditions de la privatisation de la compagnie Aeroflot, dont Berezovsky put acquérir une part importante du capital grâce à Boris Eltsine qui brada littéralement les actions. Le vent avait donc tourné au sommet du pouvoir russe. Mais il y a bien plus grave. Des faits curieux entourent également la série d'attentats d'août et septembre. Le 13 septembre 1999, lors d'une séance de la Douma, le Parlement russe, le chef de la majorité parlementaire interrompt la séance pour annoncer qu'un attentat vient d'avoir lieu dans la ville de Volgodonsk. Or, il ne s'est rien passé. Dans un premier temps, on attribue cela à la psychose qui s'est installée en Russie. Mais la ville de Volgodonsk sera effectivement frappée par un attentat 3 jours plus tard. Le 16 septembre à l'aube, l'explosion d'un camion piégé fera 17 morts et près de 70 blessés. Ce n'est là que le premier fait curieux d'une très longue série. Et après chaque attentat, il se produit la même chose. Les autorités semblent bien plus préoccupées par le fait de faire place nette plutôt que de recueillir d'éventuels indices.
Les zones d'ombre de l'histoire.
Nous sommes à Riazan, une ville située au sud-est de Moscou. Il est environ 20h30 lorsque l'habitant d'un immeuble remarque 2 hommes dont le comportement l'intrigue. Ceux-ci déchargent des sacs d'une voiture dont la plaque d'immatriculation est partiellement masquée. Suivant à bonne distance les 2 hommes qui ne le remarquent pas, il note que ceux-ci transportent les sacs dans le sous-sol de l'immeuble et qu'ils repartent. L'homme prévient la police qui intervient rapidement et qui découvre un minuteur et un détonateur. La substance contenue dans les sacs est rapidement identifiée. Il s'agit d'un puissant explosif, le même que celui utilisé dans les 5 attentats précédents. Les occupants de l'immeuble sont évacués, mais la panique qui s'est répandue fait que la plupart des habitants de la ville vont passer la nuit dehors. Les gares, l'aéroport et les accès routiers sont bloqués et des portraits robots des poseurs de bombes sont diffusés. Dans la journée du 23, le nouveau Premier ministre Vladimir Poutine se félicite de la vigilance des habitants et pointe à nouveau la responsabilité des séparatistes tchétchènes. Le pouvoir se fend même de la publication d'une liste de suspects. Mais cette liste est à peine publiée que la police de Riazan annonce l'arrestation des 2 hommes vus dans l'immeuble le 22 septembre. Et l'on découvre alors qu'ils sont russes et membres du FSB, les services de renseignement. Le successeur de Vladimir Poutine au FSB garde le silence dans un premier temps. Puis il va alors faire une déclaration sidérante. Selon lui, il s'agissait d'un exercice d'entraînement à la lutte antiterroriste et les sacs ne contenaient que du sucre. Mais la police de Riazan avait bien établi que la substance contenue dans les sacs était de l'exogène, un explosif fabriqué sous le seul contrôle du FSB. S'il s'était agi d'un exercice, pourquoi n'a-t-on pas autorisé les habitants à regagner leur demeure sitôt l'exercice terminé? Surtout, pourquoi le Kremlin a-t-il publié une liste de suspects et pourquoi Vladimir Poutine a-t-il aussitôt accusé les séparatistes tchétchènes? Il va ensuite y avoir une série de morts suspectes autour de cette vague d'attentats. 2 parlementaires faisant partie d'une commission d'enquête non voulue par le Kremlin vont être assassinés en avril et juillet 2003. Le second, Yuri Shkotchkin, sera d'ailleurs empoisonné au thallium, un acte qui porte clairement la signature des services de renseignement. Un autre membre de cette commission officieuse, qui fut par ailleurs membre du FSB, sera arrêté et envoyé en camp de travail après qu'il ait transmis certains documents à des journalistes. Ces faits seront peu relatés dans la presse occidentale. L'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya en octobre 2006 suscitera en revanche une réelle émotion. Elle enquêtait également sur les origines douteuses de ces attentats. Enfin, un mois plus tard, Alexandre Litvinenko sera empoisonné à Londres où il avait trouvé refuge. Cet ancien agent des services de renseignement avait publié un livre dans lequel il démontrait que les attentats étaient l'œuvre du FSB, qui à l'occasion ne s'est même pas embarrassé d'instrumentaliser d'éventuels soldats perdus tchétchènes, mais a tout simplement mandaté certains de ses agents pour aller déposer les explosifs. Du reste, les Tchétchènes n'avaient strictement aucun intérêt à provoquer Moscou, puisque la République du Caucase était redevenue indépendante depuis 1996. Certes, il y avait les combattants de Chamil Bassaïev, mais le chef de guerre n'avait absolument pas les moyens d'orchestrer une telle vague d'attentats. En revanche, l'intérêt que Moscou tira de ces attentats est évident. À l'été 1999, la popularité de Boris Eltsine était au plus bas. La corruption et le pillage du pays par les oligarques semblaient avoir irrémédiablement compromis les chances de la majorité présidentielle dans les élections législatives prévues à l'automne. Or, au début du mois d'octobre, la tendance s'était totalement inversée. Le peuple russe, chauffé à blanc par les attentats et la campagne anti-tchétchène, soutenait à nouveau son président et le jeune Premier ministre Vladimir Poutine, dont la fermeté était bien en phase avec le sentiment d'insécurité et le nationalisme réactivé. Le 22 septembre 1999, le FSB va lui-même, bien involontairement, fournir la preuve de son implication dans cette vague d'attentats qui débuta le 31 août. Or, c'est précisément au début de ce même mois que Vladimir Poutine quitte la présidence du service de renseignement. Il est difficile de ne pas admettre qu'il a une responsabilité directe sur ces crimes commis sur la population russe. Ces attentats feront, rappelons-le, 294 morts et plus de 1000 blessés. Il faut se rappeler que le milliardaire Boris Berezovsky, durant son exil à Londres, avait ouvertement désigné Vladimir Poutine comme ayant couvert ces attentats. Or, il se trouve que d'une part, Boris Berezovsky a lui-même reconnu avoir été en contact avec Chamil Bassaïev et qu'il fit des affaires dans le pétrole en Tchétchénie avec la bénédiction de Boris Eltsine. En tant que conseiller d'État de la Fédération de Russie, secrétaire de la Communauté des États indépendants et membre de la garde rapprochée d'Eltsine, Boris Berezovsky était au cœur du pouvoir. Son implication dans les manœuvres précédant l'offensive russe en Tchétchénie a été confirmée par Aslan Masradov, qui ne lui attribue d'ailleurs pas le rôle le plus important. Berezovsky a également été soupçonné d'avoir pris une part non négligeable dans la vague de prise d'otages de la seconde moitié des années 90, attribuée au groupe mafieux tchétchène. Si le milliardaire a affirmé que son ancien protégé Vladimir Poutine a couvert les attentats, on a toutes les raisons de le croire, d'autant que les faits dont nous avons parlé viennent corroborer cette thèse. Tous ces faits sont connus depuis le milieu des années 2000, mais les grandes démocraties ont préféré les ignorer. Et il y a finalement très peu de temps que Vladimir Poutine est devenu infréquentable. Si cette guerre de Tchétchénie n'a été qu'une immonde mascarade permettant à Boris Eltsine de se refaire une santé politique et à Vladimir Poutine de s'imposer comme le nouvel homme fort russe, elle fut aussi peut-être le premier acte d'une volonté de reconstruction de la Grande Russie. Durant les années 90, les Occidentaux ont voulu à tout prix favoriser une opposition au Parti communiste sans être finalement très regardants sur la vraie nature de cette opposition. Si l'histoire bégaye, Vladimir Poutine est-il une sorte de Staline du XXIe siècle ? Je vous retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode des Zones d'ombre de l'histoire. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur le site www.radiocampusparis.org à la page de l'émission pour écouter toutes nos précédentes émissions. Elles sont toutes disponibles.